Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Gwenaël Debout, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici à la Station Théâtre, donc qui est un théâtre que vous avez fondé et que vous dirigez donc à La Mézière, et dans lequel vous allez donner ce vendredi et ce samedi une soirée autour d'un livre que vous avez écrit et que vous allez publier, qui s'intitule « Des heures aux arrêts ». Est-ce que vous pourriez nous parler de cette soirée qui est organisée avec le comédien Joël Joanneau et Hélène Basse ?
Alors, il s'agit en fait d'une lecture d'un recueil de poèmes dont nous avons... que nous avons commencé en fait à lire déjà en septembre 2020 avec Joël Joanneau qui m'a invité dans son festival après avoir reçu en fait ces poèmes que j'écrivais tous les jours pendant le premier confinement. On y reviendra. Et donc, dans ce festival à Port-Louis, dans le Morbihan, il m'a invité pour qu'on fasse une lecture ensemble. Et il avait invité aussi Hélène Basse, qui est une violoncelliste que je ne connaissais pas à l'époque. Voilà, pour que nous donnions cette lecture au public dans le jardin de la médiathèque Pondichéry de Port-Louis. C'est un peu l'événement fondateur de cette lecture, puisque suite à cette soirée, Joël m'a proposé de revenir à la Station Théâtre. Il y était déjà venu lui-même pour faire plusieurs spectacles les années précédentes. Et donc, il m'a proposé de revenir ici et qu'on réitère en fait cette lecture, mais qu'on la travaille d'une manière un peu plus précise, puisqu'elle était assez improvisée, on va dire, à l'époque.
Donc, c'est une lecture avec donc ces deux compères, de lecture musicale pour le coup, que l'on va pouvoir trouver ici même à la Station Théâtre vendredi et samedi. Est-ce que vous pourriez nous donner les heures justement de cette lecture ?
Voilà, donc c'est vendredi 13 mai et samedi 14 mai à 20h. Voilà, on accueille le public une heure avant à 19h.
Donc voilà. Alors la spécificité de cette lecture, c'est une lecture justement des textes et des poèmes que vous avez pu écrire et qui ont été compilés dans un recueil qui s'intitule Des heures aux arrêts, que vous avez auto-édité et qui vont être publiés aux éditions L'Harmattan. Quand est-ce qu'elles vont être publiées ?
Alors, ça va être publié cet automne. Le délai, c'est entre début septembre et fin octobre, quelque chose comme ça. Ce sera dans la collection Témoignages poétiques. Et en fait, voilà, il s'agit de ces 50 poèmes que j'écrivais tous les jours pendant donc le confinement et que j'envoyais en fait à un groupe de personnes qui étaient en lien avec mon théâtre, avec la Station Théâtre, tous les soirs avant minuit. Donc il y avait une discipline comme ça d'écriture. C'était aussi un moyen de maintenir le lien avec ce public qui était privé des joies et des émotions que leur procuraient d'habitude les spectacles que je programme à la Station Théâtre. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes qui ne connaissaient pas la Station Théâtre ont eu connaissance justement de ce théâtre à partir de ces poèmes que j'envoyais et qui étaient diffusés ici et là, quoi.
Comment justement ces poèmes sont venus? C'était quelque chose qu'est-ce qui a déclenché ce besoin d'écrire dans cette période si particulière du confinement? Enfin, vous venez de nous en parler un petit peu, mais est-ce que vous pourriez nous parler de nous remettre en situation dans votre théâtre et nous parler justement de ce temps que vous avez vécu, vous, et de l'écriture qui en a découlé?
Alors, il faut dire que j'habite dans mon théâtre, que j'ai aménagé de mes propres mains, bien évidemment avec l'aide de tout un tas d'amis, bénévoles, etc. J'habite dans ce théâtre, donc je vivais au quotidien le confinement dans un théâtre qui était désormais vide et inoccupé et qui n'accueillait plus de comédiens ni d'auteurs, parce que j'accueille aussi ici des auteurs de théâtre, des poètes, ni de techniciens et ni de public, quoi. Il y avait une sorte de grand vide et en même temps la volonté de peupler ce vide, de le peupler de personnes imaginaires qu'auraient pu constituer justement ces spectateurs et ces artistes. Je suis par ailleurs aussi un lecteur assez friand de poésie, de théâtre, de romans, etc. Donc je lisais aussi beaucoup. J'ai eu l'occasion, en fait, cet arrêt d'activité à la station théâtre m'a donné l'occasion de lire beaucoup, de relire aussi des romans, des recueils, des pièces de théâtre que les auteurs qui sont venus à la station théâtre avaient laissés ici sous forme de livres ou de manuscrits qu'ils m'avaient confiés, par exemple. Et puis de relire aussi tout ce qui a fondé mon amour aussi de la littérature. Et donc, c'est aussi nourri de ces lectures, peuplé du souvenir de cette activité, de tous ces échanges qui avaient lieu quand j'accueillais les compagnies, puisque je les loge chez moi quand elles viennent de loin, etc., peuplé de tous ces échanges, du souvenir de tous ces échanges, encore pour maintenir le désir de partager, la langue, de partager le goût aussi de dire, etc. Il a fallu que je trouve un moyen de réunir, de convoquer, en fait, de convoquer toutes ces personnes et tous ces mots dans l'espace dans lequel j'étais finalement enfermé.
D'une certaine manière, ces poèmes et ce recueil, c'est la reconstitution d'un théâtre dans l'écriture, dans la mesure où justement l'activité en tant que telle ne pouvait pas avoir lieu. Et donc, du coup, vous avez reconstitué, vous êtes allé chercher vous-même et reconstruire un théâtre dans l'écriture, oui. À travers ces poèmes.
C'est ça, c'est assez juste, oui. Oui, non, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je dis à propos de la lecture elle-même, celle qu'on va donner justement les 13 et 14 mai, c'est qu'en fait le théâtre est déjà dans les mots de ce recueil, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de mise en scène. La mise en scène, en fait, elle s'est faite dans la langue, dans la construction de ces poèmes et dans le... La mort était extrêmement présente Hein, pendant ce confinement, on entendait parler justement de tous ces, de toutes ces personnes qui décédaient du coronavirus, et puis dans les autres pays, des cadavres qui pouvaient joncher les rues, etc. Et moi, ce que j'ai cherché à faire, c'était d'une certaine manière à rassembler aussi les fantômes de ces personnes dans mon théâtre, quoi, et être à l'écoute de ce qu'ils pouvaient me dire, les observer, imaginer comment ils pouvaient continuer à avoir des rapports aussi avec leur corps et leur environnement. Puisque ça nous était interdit aussi, hein, le toucher nous était interdit. Donc c'était l'occasion de donner aussi du corps en fait à l'écriture, puisque le corps manquait donc il y a eu ça. Donc là, ça c'est vraiment c'est quelque chose de très théâtral en fait. Enfin c'est le travail du théâtre que de faire ça. Et il y avait aussi cette construction-là pour essayer de retrouver un corps physique de la langue, mais pas que. Il y avait aussi le sentiment d'être dans une. Cette interdiction pesait aussi énormément. Évidemment, il y avait quelque chose aussi d'insupportable dans le fait qu'on nous interdise de sortir de nos lieux de vie, en fait. Et il y a aussi, donc, évidemment, un sentiment d'injustice, de révolte, d'observation du monde qui nous entourait, mais depuis notre fenêtre, depuis la vision de l'intérieur vers l'extérieur, sur un environnement qui d'habitude, surtout ici à la station théâtre qui se situe à un rond-point où il y a pléthore d'automobiles, maintenant aussi beaucoup de cyclistes, de passants, etc. Et là, soudain, ce grand désert nous donnait la possibilité, enfin moi me donnais la possibilité d'imaginer. De faire vivre des choses qui n'existaient pas. Voilà, de faire vivre des choses qui n'existaient pas et de le faire vivre au plus profond de moi-même, selon mes propres aspirations, et de confronter aussi ces aspirations à l'interdit imposé de ne pas aller dehors, quoi. Et ça, c'était aussi quelque chose de très fort, quoi.
Je ne l'ai pas présenté dans l'introduction, mais ces poèmes-là, quelle forme cela a pris ? C'est vraiment une chronique au jour le jour. Alors, chronique, c'est entre guillemets. C'est un poème par jour que vous avez pu écrire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail poétique ?
Ce qui tient, en fait, ce qui en fait un... Enfin, ce qui en fait un recueil, ce qui tient les poèmes entre eux, c'est bien évidemment leur ordre chronologique, tout simplement. Après, les sources d'inspiration étaient fonction...
Donc, chronologique, vous voulez dire, c'est un poème par jour, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Un poème par jour. En général, quand le jour commençait à décliner, parce qu'il y avait ce besoin d'être encore plus enfermé dans une solitude, que la lumière qui commençait à devenir printanière peut aussi empêcher, enfin, cet éclairage du soleil sur le... sur l'environnement et qui traverse les fenêtres, etc., nous éloigne du sentiment de solitude. Et la nuit, pour moi, la nuit est extrêmement importante parce que c'est le moment justement où l'inconnu, où ce qui est caché peut commencer à surgir et à se révéler. Et c'est là où on peut établir justement des rapports différents avec les choses, les êtres et puis les phénomènes, en fait. Et donc le mystère, ce mystère que la raison et le discours ne peut pas percer d'ordinaire, au moment du soir et de la nuit, est plus facile à apprivoiser et à mettre en mots, en fait. Il y avait ça, quoi. Alors, ce qui constitue peut-être le lien aussi entre ces poèmes, c'est peut-être aussi la présence de la nuit, la présence de l'absence. Ça, c'est quelque chose, parce que l'absence, c'est pas un vide. L'absence est remplie du manque et peut être aussi remplie de ce dont on la peuple, en fait. Donc l'absence appelle l'imaginaire et appelle aussi appelle un regard créatif, forcément. Sur les choses, quoi, ce qui nous entoure. Donc, il y a ça, il y a la nuit, la présence de l'absence, le sentiment de une certaine révolte aussi, un sentiment de révolte par rapport à l'emprisonnement qu'on nous imposait, parce qu'on n'est pas, dans notre époque contemporaine, on n'est pas coupé du monde par l'intermédiaire justement des médias. Et alors là, en plus, ça a été toutes les formes internautiques là ont été utilisées et usées jusqu'à la corde par tout le monde, hein. C'était un lien qu'on avait avec le monde qui nous environnait. Ça pouvait être la radio aussi, ça pouvait être la télé, mais il y avait aussi beaucoup l'Internet, quoi. Donc moi, je recevais, évidemment, comme tout le monde, les nouvelles du monde extérieur.
Un poème par jour, c'est aussi, soulignons-le, une forme de performance. C'est un rythme soutenu, pour le coup. Justement, d'où vous venait l'inspiration jour par jour? Des fois, on peut imaginer qu'il y avait des moments un peu de vide ou pas. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette forme de discipline à se tenir à un poème par jour? Est-ce que vous pourriez nous parler de ça, notamment de ce qui déclenchait les poèmes ou ce qui vous inspirait, ou pas, des fois aussi?
Alors, cette discipline, effectivement, elle était nécessaire, parce que, effectivement, parfois, l'inspiration n'était pas à portée de main, comme ça. Hein, voilà. Alors. Plusieurs sources d'inspiration ont été là. Alors, il y a eu parfois des dialogues avec des gens croisés pendant les sorties, et des dialogues sur la situation et le sentiment les sentiments qu'on échangeait comme ça avec ces personnes qui ont suscité l'écriture de certains poèmes. Les choses étant difficiles sur la situation elle-même à évoquer entre nous, parce que c'était tellement inédit que sur le moment, trouver les mots pour parler de ça, c'était très difficile. Et donc, j'ai eu l'impression que plus que jamais, il y avait des conventions dans le langage, sur la situation, que dans les paroles échangées, les dialogues échangés avec les personnes, les rares personnes qu'on pouvait rencontrer, il y avait vraiment une impossibilité de dire les choses au plus profond de notre être. Alors, d'habitude, c'est ça aussi. On n'est jamais totalement dans le poème, dans les échanges. Voilà. On est toujours pris dans la communication, etc. Mais là, c'était encore plus flagrant. C'est-à-dire, ces échanges de communication... devenait soudain presque indécent. Il y avait presque de l'indécence à parler de ce qui se passait parce que ça se passait et que ça demandait beaucoup de recul et de plonger dans la solitude de l'être pour pouvoir en parler. Donc il y a eu ça, il y a eu cette source d'inspiration là. Il y a eu des sources d'inspiration aussi de voir par exemple le désert que c'était à ce carrefour là dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que là il y a un rond-point qui est où la frénésie automobile est constante toute l'année, et soudain là il y avait un vide, un grand vide total, un désert. Donc je découvrais le désert, quoi. Je découvrais le désert, et ce désert, c'était à la fois le silence, la solitude, des grands espaces. Soudain, c'est comme si par exemple la ville entière, même les immeubles là qui entourent la station théâtre, etc., les hangars, tout ça, s'était écroulé, comme s'il n'existait plus, quoi. Donc il y avait la possibilité de marcher dans l'inconnu. En fait, c'est comme si on faisait un parcours dans l'inconnu et qu'on trouvait de nouvelles étapes, de nouveaux lieux à atteindre, des lieux imaginaires. Mais on pouvait enfin, il y avait la place de situer des imaginaires dans l'espace, en tout cas, qu'on n'a pas d'habitude, parce qu'on est toujours sollicité par le mouvement. En fait, là, il n'y avait plus de mouvement. Il n'y avait plus de mouvement qui venait capter notre attention, la détourner justement d'une chose immobile, par exemple. Là, les choses immobiles, voilà, il y a eu ça, les choses immobiles. Alors, les choses immobiles qui vivent quand même, parce qu'un arbre, par exemple, est toujours agité par le vent, mais soudain, l'arbre, on avait tout le loisir d'entendre le bruissement de ses feuilles, on le voyait peuplé, les choses se peuplaient comme elles n'avaient jamais été peuplées auparavant. Avant. Donc ça, il y a eu tout ce peuple, en fait. Cette idée de peuplement a été aussi une grande source d'inspiration. Et puis la contemplation, rien n'était plus finalement réel que l'état de contemplation dans lequel on se retrouvait. Étant immobilisé quelque part, étant interdit de faire quelque chose dans le social, donc on était forcément dans un état de contemplation qui est un état préalable, je pense, à tout acte poétique.
Très bien. Est-ce que vous pourriez nous lire quelques poèmes
volontiers, comme ça, allons-y. Celui-là. Je marche bras tendus parmi la foule absente. 5 avril. Des murmures, des bruissements, les cendres grises. Je marche bras tendus parmi la foule absente. Des manteaux se défont dans mes doigts, des paroles s'effilochent. On ne finit pas ses phrases. Un comédien là-bas boit près du piano. les livres s'affaissent, leur dos se voile et leurs mots sentent le plomb. Au grand cahier sur le comptoir, la litanie des noms prend la poussière. Je ne reconnais plus les visages, les billets font souche et les croix désespèrent d'avoir prévu complet. Quelques assiettes se perdent en chemin, ne restent que des miettes et des cercles de vin. Ça bâille au bar. La vaisselle est noyée. Les adhérents se détachent, mous et les yeux éteints. Où est le balai ? Sans même lire un vers ni jouer au fracas avec mon téléphone, j'ouvre la porte du théâtre. Le spectacle a perdu son titre. L'actrice s'est coupée les pieds. Elle ne peut plus danser ni vivre debout. Elle dessine un chemin de sang en rampant sur la scène. La porte de la loge fait la planche sur le plateau calme. Soudain, les barreaux de l'échelle sont fragiles. Ils ne supportent plus le poids du technicien. Le grill tremble de froid. Les pendrillons sont rêches. Et les patiences s'allongent. Le temps pend à la boucle d'un câble. Un projo boude à en salir. La régie s'est figée, toute console éteinte. Je reviens à la porte du théâtre. La poussière est au plus haut niveau. Personne ne fait la queue. Des billets flottent en l'air. Je sens que le temps sera long et qu'il faudra raviver les passions. Manifeste des Lents, 23 avril. Nous ne pouvons surgir. Les sirènes au lointain nous plaignent sans alarme. Laissez-nous la brume et le long, long poids des écharpes qui flottent pour nous en envelopper, car nous sommes bien fragiles dans vos cités. Ne nous volez pas le temps qui passe louvoyant dans la maille, rampant de gauche, puis rampant de droite, avec sa masse évidée de tout squelette. Nous ne pouvons obéir ni au doigt qui indique un ailleurs immédiat, ni à l'œil qui perce trop de coton dans nos regards pour le confondre. Nous marchons, c'est assez pour nous perdre entre deux eaux. N'allez pas nous mettre au goulot, dans le débit, dans la pression, dans l'affût de la soif. Nous sommes d'huile. Nous ne sommes pas là quand tout s'y précipite. Nous sommes loin de vous, dans les Olympes, aux cimes. Lorsque vous dévalez, pensez avec votre dos. Nous pourrions vous charger d'un long, long calme et vous peser de haltes et de visions et d'interminables seuils où la paix s'étale comme du beurre. Nous pourrions vous faire passer les plus épaisses des murailles et les plus denses des parois avec la masse tranquille de notre pensée accordée au temps immémorial.
Merci Gwenaëlle Debout pour ces lectures de vos différents poèmes qui seront publiés donc en septembre, donc dans cet ouvrage qui sera intitulé, dans ce recueil qui sera intitulé « Des heures aux arrêts ». Et par ailleurs, un recueil et des poèmes que l'on va pouvoir retrouver ce vendredi et ce samedi à la Station Théâtre à la Mézière avec vos camarades Joël Joanneau et
Hélène Basse. Au violoncelle. We'll be right back.